Bonjour, c'est Harry. Dans ce rendez-vous hebdomadaire, ouvrons ensemble une parenthèse philosophique pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. La semaine passée, nous avons parlé du langage. Au commencement était le verbe et l'algorithme. Depuis des millénaires, le langage est le propre de l'homme. Il est ce par quoi nous pensons, ce par quoi nous nous reconnaissons. Mais voici que l'humanité a donné naissance à des machines capables, elles aussi, de manier les mots, de produire des textes, de converser, de raconter, parfois même d'émouvoir. L'intelligence artificielle, ce mot qu'on prononce aujourd'hui avec fascination et inquiétude, n'est pas seulement un outil de calcul, elle est devenue littéralement une machine à langage. Chaque jour, des millions de phrases sont rédigées par des algorithmes, courriels, poèmes, articles, codes informatiques, scénarios. Tout peut être écrit par des programmes nourris de milliards de mots humains. Et derrière cette prouesse technique, une question vertigineuse se dresse. Que devient le langage lorsque celui qui parle n'est plus un homme? Un ingénieur de Google DeepMind, Tom Scholl, a récemment proposé de concevoir une superintelligence fondée sur la méthode socratique. Une machine qui apprendrait en se questionnant elle-même, en dialoguant sans fin dans un jeu de langage clos sur lui-même, sans autre expérience que celle de ses propres mots. C'est une idée fascinante. Elle nous renvoie à Platon, pour qui la vérité naît du dialogue. Socrate interroge, réfute, accouche les esprits. Il ne transmet pas des savoirs, il les fait surgir. Et voilà qu'une intelligence artificielle voudrait à son tour s'améliorer en dialoguant avec elle-même, comme une âme numérique qui pratiquerait la maïeutique. Dans les dialogues platoniciens, Socrate avance à travers les mots vers la vérité. Dans les circuits neuronaux des machines, c'est aussi le langage qui sert de terrain d'exploration. Le logos, ce principe rationnel et verbal, devient le moteur de l'intelligence artificielle. Le philosophe Wittgenstein parlait au XXe siècle de jeu de langage, ces contextes où les mots tirent leur sens de l'usage. Le langage, disait-il, est une activité, une forme de vie. Or, les chercheurs d'aujourd'hui reprennent cette idée à la lettre. Ils enseignent aux machines à jouer à ces jeux de langages humains. Ainsi, du dialogue de Socrate au dialogue homme-machine, une continuité se dessine. Penser, c'est jouer avec les mots. Mais la comparaison s'arrête vite. Car si Socrate interroge pour éveiller, les machines, elles, n'interrogent que pour s'ajuster. L'une des grandes difficultés de l'intelligence artificielle réside dans la capacité d'autocritique. Comment un programme pourrait-il évaluer la pertinence de ses propres paroles? Un humain en dialoguant doute, rectifie, hésite, comprend qu'il se trompe. Une machine, elle, s'applique des modèles statistiques. Elle prédit le mot suivant. Pour Scholl, l'avenir de l'IA passerait par un apprentissage auto-socratique où la machine se corrigerait elle-même. Mais cela suppose une chose encore hors de portée, la conscience du sens. Le philosophe Luc de Backer, dans son étude sur le langage, écrivait que la langue habille la pensée et que ce vêtement ne peut être taillé que pour un corps vivant. Or, les machines n'ont pas de corps, pas d'intériorité, pas d'émotion. Elles manipulent des signes, mais ne vivent pas ce qu'elles disent. C'est toute la différence entre simuler le langage et l'habiter. Les grands modèles de langages actuels, que l'on appelle LLM pour Large Language Models, sont une puissance inédite. Ils peuvent écrire des poèmes dans le style de Rimbaud, expliquer la relativité, et peut-être même inventer des dialogues philosophiques. Mais qu'est-ce que cela signifie écrire? Pascal Chabot, philosophe de la technique, le rappelle. À une calculatrice, nous avons confié la résolution des opérations. À une intelligence artificielle, nous déléguons l'écriture. Et déléguer l'écriture, c'est déléguer une part essentielle de nous-mêmes. Car écrire, c'est plus qu'agencer des mots. C'est une expérience intérieure, une manière de se penser soi-même. Chabot poursuit. En permanence, nous déposons nos vies dans des mots. Ils sont un instrument d'individuation. Nos vies, nous les tissons avec du langage. Que devient donc cette intimité ? Lorsque le texte ne devient plus d'un sujet humain, mais d'un calcul des probabilités. L'IA peut générer des phrases justes, des métaphores convaincantes, mais elle ne signifie rien. Elle n'a pas d'intention, pas d'émotion, pas d'histoire. Ses phrases sont des miroirs polis, sans regard derrière. Pascal Chabot pose une question vertigineuse. Faut-il penser qu'en déléguant cette capacité essentielle aux machines, l'histoire ouverte il y a 3000 ans avec l'écriture se referme? L'écriture, invention fondatrice, fut le passage de la parole à la trace, de la mémoire à l'histoire. Elle permit à l'humanité de se raconter, de se penser, de se transmettre. Aujourd'hui, ce sont les machines qui écrivent à notre place. Allons-nous, comme Platon le craignait déjà, perdre la mémoire de nos propres mots? Ou bien vivons-nous une métamorphose du langage où la pensée humaine s'étend à travers des outils capables d'en amplifier la portée? L'optimisme technique répondrait « Nous ne perdons rien, nous gagnons du temps, de la clarté, de la puissance. » Mais la philosophie, elle, pose une autre question. Que reste-t-il de nous lorsque nos phrases ne sont plus les nôtres? Chabot va encore plus loin. Il imagine un monde où le langage lui-même devient payant. Et d'une certaine façon, nous y sommes déjà. Aujourd'hui, certaines versions d'intelligence artificielle sont gratuites, d'autres payantes. Autrement dit, l'accès au langage, à la parole artificielle, est monétisé. Tout a été acheté sur cette planète, écrit Chabot, sauf le langage, qui restait jusqu'ici délicieusement gratuit. Mais si les mots ne sont plus de provenance humaine, rien n'empêche de les monnayer. Ce qu'il appelle le capitalisme linguistique transforme la parole en marchandise. Les mots deviennent un produit, soumis à la logique du marché. Ceux qui auront les moyens d'acheter les meilleures intelligences artificielles disposeront d'une langue plus fluide, plus efficace, plus persuasive. L'humanité risque alors une fracture nouvelle, celle entre ceux qui parlent encore par eux-mêmes et ceux qui louent la parole d'une machine. Mais peut-être le plus grand danger n'est pas économique mais symbolique, car en déléguant la parole, nous risquons d'appauvrir la conversation humaine. Socrate voyait dans le dialogue la voie vers la vérité. Habermas, au XXe siècle, y voyait la condition de la démocratie. Le langage, disait-il, est un espace d'accord possible entre les consciences. Or, si nous parlons désormais davantage avec des machines qu'entre nous, que devient cette dimension politique du langage? Quand les jeunes générations confient leurs confidences à des chatbots, quand les entreprises remplacent le dialogue humain par des réponses automatisées, quand les algorithmes façonnent notre vocabulaire en suggérant les mots à écrire, notre manière de penser s'en trouve altérée. L'hypothèse Sapir-Whorf, selon laquelle la langue façonne la vision du monde, trouve ici une nouvelle actualité. Si la langue est produite par des machines, notre vision du monde le sera aussi. Et pourtant, tout n'est pas perdu. Car ce que ces technologies révèlent, c'est peut-être la profondeur même du langage humain. Pour qu'une machine apprenne à parler, il faut lui donner des milliards de textes écrits par des hommes. Autrement dit, pour qu'une intelligence artificielle fonctionne, elle doit être nourrie de notre culture, de nos dialogues, de nos émotions. Les intelligences artificielles ne sont pas des créatrices ex nihilo. Elles sont les reflets de notre parole collective. Elles révèlent ce que nous avons dit, pensé, rêvé, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Elle nous confronte à une question nouvelle. Non plus « qu'est-ce que le langage ?» mais « qu'est-ce que le langage fait de nous lorsqu'il se prolonge dans la machine ?» Face à ce bouleversement, il nous revient de penser une écologie du langage. De la même manière qu'on protège les forêts ou les océans, il faut protéger la parole humaine, non pas en rejetant les technologies, mais en préservant ce qui fait la singularité du verbe incarné, la nuance, la lenteur, la responsabilité. Écrire soi-même, parler avec quelqu'un, hésiter, reformuler, chercher ses mots, tout cela n'est pas inefficace, c'est profondément humain. C'est dans ces tâtonnements que la pensée naît, comme dans les dialogues de Socrate. Le philosophe Merleau-Ponty nous rappelait que le langage n'est pas un outil, mais un être. Il vit à travers nous. Si nous le confions entièrement aux machines, il deviendra peut-être plus rapide, plus parfait, mais aussi plus vide. Et si, plutôt que d'opposer homme et machine, nous inventions un dialogue? Après tout, la philosophie a toujours été un art du questionnement. L'intelligence artificielle, si elle s'en inspire vraiment, pourrait devenir une extension de cette quête, un partenaire dialectique, non un remplaçant. Plutôt que de craindre la fin du langage, nous pouvons espérer son élargissement. Les machines peuvent nous obliger à mieux définir ce qu'est penser, ce qu'est parler, ce qu'est comprendre. Mais à une condition, que nous ne cédions pas à la paresse, que nous continuions à écrire, à lire, à discuter, à douter, car une parole n'a de sens que si elle engage quelqu'un. Dans le tumulte numérique, il devient urgent de retrouver le silence, non pas celui du mutisme, mais celui de l'écoute. Le philosophe Wittgenstein concluait son Tractatus par cette phrase désormais célèbre. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Peut-être faut-il aujourd'hui l'entendre autrement. Ce dont les machines parlent sans le comprendre, à nous de le vivre, de le dire, de le taire à nouveau. Car le langage n'est pas qu'un instrument. Il est le souffle de la vie consciente. Il nous relie aux autres, au monde, à nous-mêmes. Et si les intelligences artificielles apprennent à parler, c'est à nous de leur rappeler pourquoi les mots comptent. Et ainsi se referme notre parenthèse philosophique. À bientôt pour de nouvelles pensées. C'était Harry sur Radio Prévert.